rapide comme un sangsor, de stop en stop comme le hip-hop. Non, non, non. À la tectonique, on se désarticule le corps. Et pour ça, j'ai plein de techniques. Car dans ma peau, j'ai la maîtrise de la technique, de la tectonique. Mais j'ai aussi plein de techniques pour arrêter mon slam et me stopper. Mathieu.
Le slam, c'est ma flamme qui rame sur un ragoût de pensée. De toute façon, ce n'est qu'une vie non terminée. Je pense quand même aller jusqu'au bout de mes pensées. C'est un petit bout de mon âme qui a fabriqué une flamme. Mais je pense encore à toi, toi qui es parti dans un collège loin de moi, moi qui perds toujours mon sang. Tu me dis que je suis loin de toi. Tu me dis que toi, tu es loin de moi. Mais écoutez-moi, si vous voulez fabriquer une flamme, pensez, pensez et repensez à ce que vous vivez et ce que vous allez revivre. Nyota.
Je t'ai fait marcher, je te ferai tomber. Un jour, on marchait dans la rue. Elle est tombée, j'ai rigolé, elle a pleuré. Je me suis excusée, je lui ai demandé si ça allait bien, bien. Elle m'a pas répondu, j'ai paniqué. Je l'ai emmenée à l'hôpital, elle avait trop mal. Mardi, j'ai oublié d'aller la chercher. Samedi, elle est tombée dans mon piège. Mon piège était ce marché conclu. Marine.
Paris. Je voudrais faire un slam pour tous ces gens contents, le mardi à Paris, sous un ciel tout saut gris. Au Louvre, la Joconde attire même ceux qui sortent de l'ombre. Les bateaux glissent sur la Seine, toujours aussi belle. À côté d'elle se dresse la tour Eiffel. Pas loin d'elle, un autre monument, toujours aussi impressionnant. C'est l'Arc de Triomphe, où brûle à ses pieds une flamme qui représente l'âme de tous ces combattants qui ne sont plus vivants. Florian.
Trop heureuse pour être peureuse. Quand on est heureuse, on est trop courageuse pour être peureuse. On éprouve du courage pour tout, mais on oublie la peur. On vit sans la peur. Le courage d'être heureuse nous rend plus forte, plus joyeuse. Mais heureuse ou pas, c'est notre vie. On peut être peureuse ou courageuse. On a nos défauts, quoi qu'il en soit. C'est notre vie. Des personnes sont heureuses et d'autres non. Donc, quoi qu'ils feront, il y en aura des peureuses ou heureuses. Les peureuses n'ont pas un courage pour être plus courageuses. Être peureuse n'est pas très bien, on se sent découragé. Mais quand on est heureuse, on se sent plus courageuse, plus développée, même si on a des défauts. Si on a du courage, on se sent super bien, on a du courage pour tout, même si on a peur. Il faut essayer pour y arriver, mais être peureuse, on est trop découragé pour y arriver. Être heureuse, c'est super bien car on se sent tellement bien qu'on s'en fout si on a tort. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, même si on n'aime pas. Barjune.
Printemps. Les gens sont contents car il y a beau temps. Ils marchent en chantant, mais des fois c'est embêtant car dehors il y a du vent. Tant pis si cela se ne voit pas que c'est le printemps. Car les gens sont heureux, ils touchent leurs cheveux car les feuilles tombent sur eux. Certains sont malheureux de voir les gens heureux, les fleurs sont écloses. Emeline.
Le journal de la création. Le journal de la création.
D'Ivry. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux. Et aujourd'hui, nous allons interroger la postérité, savoir ce qui reste quand on a tout oublié, comme on dit, avec Bernard Morlinot, qui vient de publier, c'est comme un livre cadeau, on pourrait dire, Les 100 qui restent, 100 écrivains français du XXe siècle, qu'on lira encore en 2100, c'est paru aux éditions Écriture. Bernard Morlinot, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
L'idée de ce best-of, si on peut dire, même si on va discuter dans les détails, Alors pourquoi quel est un peu le motif, le mobile du crime, si on peut dire, ouais. Pourquoi ce livre? C'est un livre grand public, j'ai eu l'impression, et dans votre d'ailleurs dans votre introduction, vous dites: s'il y a des guides pour les restaurants, pourquoi n'en est-il pas pour les écrivains? Il faut parler de littérature sans trop la sacraliser, sinon elle devient inaccessible. Elle est ici présentée sous forme de fiches de cuisine. Titre, auteur, ingrédients, aucune date de péremption. C'est vrai que c'est fait avec... Vous avez donné beaucoup d'ingrédients, en tous les cas. Alors, quel était le réflexe? Quel était le déclic pour vous?
Au début, c'est parce que je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Comme je suis chroniqueur littéraire depuis longtemps, au début, je me suis dit, il faudrait publier tout ce que j'ai, mes chroniques. Après, j'ai dit, non, c'est quand même pas bien de faire ça, ça n'intéresse pas grand monde. Et là, je me suis dit, il vaut mieux que ce soit du même jus que je choisisse les auteurs, que j'écrive le livre, vraiment que des pages inédites, quoi. Sinon,
donc, c'est de l'inédit.
C'est de l'inédit. Je ne dis pas ça parce que ce n'est pas prétention, mais c'est pour que le livre ait la même température. C'est ça que je voulais faire. Parce que sinon, c'est fait de briques et de broc, une auberge espagnole, etc. Et donc je me suis dit, on ne peut pas publier des vieilles chroniques, ça ne marche pas. Et là, je me suis dit, on est quand même en 2023 maintenant, donc 21e siècle. Et le 20e siècle, ça commence à faire du temps derrière. Et je me dis, qu'est-ce qui reste de tout ça? Je dis, ça serait bien de réfléchir là-dessus. Donc, c'est ça que je me suis posé. Alors, j'ai trouvé l'éditeur, Jean-Daniel Belfond, il a été d'accord. Mais l'idée, c'était surtout, comme il existait aussi cette collection célèbre, le dictionnaire amoureux de la littérature, je ne voulais pas faire ça. Je me suis dit, il faut jouer le jeu de la postérité. Donc, il ne s'agit pas de mes écrivains favoris. Ça a été dur à écrire parce que j'ai exclu, par exemple, Emmanuel Berle, que j'aimais beaucoup et qui j'étais ami, qui m'a rendu écrivain, on peut dire, ou qui m'a révélé écrivain. Emmanuel Bove, Henri Calais, les écrivains que j'aime beaucoup de cœur, comme ça, ils n'y sont pas dedans. Je ne les ai pas mis parce que je pense que pour vraiment lire ces gens-là dont je viens de parler, il faut vraiment beaucoup aimer la littérature. Et la postérité, elle n'est pas forcément amoureuse de la littérature. Elle retient des scandales, des esclandres. C'est pour ça que la ligne conductrice de mon livre, c'est les gens, les temps forts du XXe siècle, les écrivains qui ont marqué leur époque. Bien sûr, il faut qu'ils aient un style, une vision du monde, une vision du langage, etc. C'est ça la ligne conductrice.
C'est ça.
Alors certains me disent, par exemple... pourquoi il y a Charles Maurras, c'est une ordure? Et j'ai dit, mais lis le texte, c'est marqué dedans.
Alors, à l'imparfait du subjectif.
Bien sûr.
Voilà, le titre de votre introduction, Bernard Morlinot, c'est vrai que moi, je me suis dit, comme tout le monde, je ne partage pas votre sélection, forcément. Bon, il y a deux absents, c'est Barjavel et puis Nathalie Sarraute. Ça, c'est vrai que là, je me suis dit, j'aurais préféré Nathalie Sarraute à même Robrié.
Là, j'ai réfléchi.
C'est un choix, c'est comme ça.
C'est un choix parce qu'on se dit, c'est un truc de fou. Cependant, pour la postérité, je me suis dit, concernant le nouveau roman, c'est le fagnon, c'est Robrié. Je pense que c'est lui qui restera. Nathalie Sarraute, elle sera bien sûr retenue, excellente écrivain, mais la postérité, elle retient pas forcément les meilleurs. Postérité, je veux dire, si on joue le jeu de la postérité comme j'ai voulu m'atteler, je pensais que c'était Robrié qui emporterait le morceau, comme on dit.
Nous ne sommes pas là pour y vérifier. J'allais dire qu'il y a deux points de vue dans votre livre. Il y a le point de vue éditorial, donc la préoccupation de l'éditeur, les 100 qui restent après occupation de l'éditeur avec le concept de la postérité. Et puis, il y a l'auteur que vous êtes, Bernard Morlinot. Ouais. Ce qu'on découvre derrière tout ça, moi, ce que j'ai aimé, c'est comment on pourrait dire ça?
Le portrait, l'art du portrait, on pourrait dire.
Il y a ça, et il y a les détails. Ah. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une petite passerelle, il y a un petit trait d'union qui fait que, paf, on est dans les coulisses de la littérature. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai un côté Sherlock Holmes, ou comme... mais j'ai aimé... Par exemple, vous parlez... c'est comme c'est comme des petites passerelles, comme si on était dans un labyrinthe littéraire. Alors, il faut dire que c'est pas des fiches de lecture, ce sont des portraits. Ils sont en trois parties. Alors, ça, faut vous expliquer.
C'est pour ça qu'il y a une rythmique comme ça.
Voilà.
Il y a le portrait qui faisait trois feuillets. Par exemple, tous les portraits ont trois feuillets, un titre, trois feuillets. Après, j'ai sorti des dates clés, quelques dates clés. Après, j'ai mis trois livres références.
Exactement.
Et après, j'ai mis un livre sur l'auteur ou l'autrice, l'auteur. Et après, j'ai mis une phrase clé que j'ai pris, une phrase qui pourrait représenter. Voilà. Ça, c'est pour ça, comme vous avez dit au début, quand j'ai souligné le guide de cuisine, puisqu'il y a, il y a le guide Michelin, tout ça, j'ai dit, je vais faire un guide littéraire. Ça compte aussi. Je veux dire, pourquoi ça n'existerait pas? Parce que ça fait peur aux gens, la littérature. Moi-même, quand j'étais enfant, ça me faisait peur. Je préférais jouer au football. J'ai mis du temps à venir comprendre, comment dire, devenir familier de la littérature. Que je vous dis que c'était comme une montagne inaccessible pour moi. Parce que je voyais les écrivains à la télé, ça me faisait peur. J'avais pas compris que la littérature, en fait, la littérature, c'est pas fait pour apprendre comme on apprend une leçon. C'est pas ça, la littérature. C'est pas fait même pour nous instruire, c'est fait pour nous améliorer. C'est ça que j'ai compris. La littérature, normalement, ça doit nous améliorer. Moi, c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse. Je lis un livre, faut que j'en sorte plus meilleur. Si c'est pas ça, je veux pas lire pour me divertir. Ça m'intéresse pas, me divertir, non. C'est pour ça. Donc j'ai dit, avec l'actualité en plus folle qu'il y a, c'est comme une consolation, la littérature, c'est comme un grand médicament. On prend ça, c'est-à-dire c'est merveilleux, parce que les hommes, les femmes que j'ai retenues, ils ont mis le meilleur d'eux-mêmes, ou le pire, dans leurs livres.
Bien sûr.
Donc on a plein d'enseignements à retirer de tout ça, c'est fabuleux, je veux dire. C'est un continent multiple. On n'en sortira jamais. C'est pour ça que vous avez souligné que j'ai mis des petits détails, des petites anecdotes. Ça dit plein de trucs.
Oui, c'est...
C'est pour ça que j'ai mis... Il faut que c'est le même jus. Comme ça, les portraits, il ne fallait pas répéter. Parce que sans portrait, ça peut rendre dingue à écrire. C'est aussi difficile qu'un roman, parce qu'il ne faut pas se répéter. La première phrase, par exemple, sur Camus, il ne faut pas que je la dise sur Sartre, etc. Tout ce magma, là, c'est dingue. Alors, c'est passionnant à faire.
Ça revient du sport. Hein. C'est une sorte de marathon que vous avez fait. C'est sportif. Vrai. Et ce que j'ai bien aimé, comment dire, mais autrefois, on parlait des morceaux choisis. Ouais. Mes grands-parents, ils avaient des anthologies. Moi, j'aime beaucoup les anthologies. Quand on est, autodidacte, comme moi je suis, beaucoup de temps le sont, enfin, j'espère, on aime ça. On aime avoir des... comme un avant-goût. Vous buvez un bon vin, vous goûtez, vous avez des échantillonnages. Voilà, je cherchais le mot.
Échantillons.
C'est comme un nuancier, votre livre.
Voilà, parfait. De couleurs, tout ça. Couleurs. Comme les peintures, vous avez les tapisseries.
Alors, il y a du plus sombre au plus clair, au plus lumineux, il y a toutes les couleurs. Et ce que j'ai aimé, par exemple, c'est des détails qui, pour des jeunes, qui vont vous lire, ou des jeunes étudiants, ou pas en littérature, ou tout simplement des jeunes. Par exemple, vous me dites, moi j'ai découvert ça, pour corriger ses épreuves, Marcel Proust a sollicité l'aide d'un jeune poète nommé André Breton. Mmh. C'est rien. Mais c'est rien fabuleux. De savoir qu'André Breton a corrigé les épreuves de la recherche du temps perdu.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est beau comme histoire, c'est fabuleux.
Et c'est ce genre d'image qui fait que votre livre est un roman dans le roman.
Ouais, ça me fait plaisir, mais c'était mon rêve de réussir à faire ça. Je veux dire, c'est tout ce que j'ai appris comme ça, retenu. C'est pour ça que j'ai voulu que ça ressurgisse comme ça, à bon escient, comme au fil de la plume. C'est ça qui est arrivé, en fait. Et 40 ans de lecture qui ressortent.
Oui, avec beaucoup de recherches.
Ah ben oui, c'est ça qui est passionnant. Parce que chaque fois que j'écris un portrait, je me suis imbibé de l'auteur. J'ai relu plusieurs livres. Vous voyez, pour bien baigner
Combien de temps vous avez mis?
J'ai bien mis, en réalité, 40 ans.
Ouais.
Mais d'écriture vraiment, 2 ans non-stop.
Ouais.
Deux ans non-stop.
Et c'est vrai que, il y a ce... Voilà, c'est des petits détails qui, pour moi, sont très, très importants. Alors, vous écrivez, chaque écrivain croit que son dernier ouvrage va faire du bien au monde entier, mais c'est un combat perdu d'avance. Il faut prendre un livre pour ce qu'il est, rien qu'un livre, mais c'est beaucoup. D'ailleurs, vous revenez, vous semblez dire, d'abord on a une illusion, vous revenez un peu sur nos illusions perdues, mais c'est vrai, tout le monde ne lit pas finalement. Tout le monde ne lit. Il y a des gens qui ne lisent pas et qui ne liront jamais. D'autres qui lisent beaucoup, d'autres un peu, beaucoup, passionnément. Et là, c'est avec ce panel d'écrivains, vous nous permettez de les resituer surtout dans leur temps. C'est ce que vous faites pour certains choix d'écrivains. Parce qu'il y a là, je vous parlais de Breton et Proust. Une sorte de synchronicité heureuse de rencontre.
Ouais. C'est pour ça que je les ai classés par ordre alphabétique. Mais en même temps, j'ai remonté tout le siècle, quand je remontais comme ça, parce que c'était le Paris du XXe siècle. Je regardais les temps forts, tout ça, pour les sélectionner. Je ne l'ai pas fait au jour le jour. Chaque fois, il y en a que j'ai mis, Sarod, j'avais mis, je l'ai enlevé, etc.
Bah oui, vous auriez dû la liste.
J'ai mis les incontournables, comme on dit, d'autres, bien sûr. Il y en a peut-être 30 là qui sont peut-être... litigieux pour pour la postérité, pendant 30, bon. 70 sur ils y resteront.
Oui.
Il y a une trentaine.
On ne sait pas.
On peut les discuter.
Alors, vous, dans votre. parler des grands oubliés, Milan Kundera aussi, mais il n'a pas écrit d'abord en français ses livres. Alors, parler de Daniel Ropp, c'est vrai que Daniel Ropp, c'était très connu. Il est oublié maintenant. Oublié. Paul Gadène, par contre, Paul Gadène ressurgit un petit peu.
De temps en temps.
On en parle.
C'est parti comme Beauve, Henri Calais. On les redécouvre sans cesse, c'est ça.
Gadène a quand même une petite survie. Et Béatrice Beck, c'est vrai. Béatrice Beck, elle est complètement oubliée. Hein. Voilà.
Alors, il y en a beaucoup comme ça.
Il y en a beaucoup.
Pour ça, si je peux, plus tard, je ferai une suite. Ce sera le panthéon des oubliés. C'est-à-dire, ça sera vraiment mes écrivains préférés. Il y en a beaucoup là-dedans. Jean Giono, Pagnol, pour ça, j'adore Albert Cohen, il y en a plein.
Oui.
Mais le panthéon des oubliés, il y a encore. Ça mérite encore un volume.
Alors, vous écrivez, difficile de prononcer, néanmoins, écrire est un cadeau fait au lecteur, un don de soi, du lest spirituel en offrande. C'est pour la lecture, pour vous. À chaque fois, c'est une déclaration d'amour à l'écriture et à la lecture. Mais tous les écrivains, beaucoup d'écrivains dont vous parlez, sont avant tout des grands lecteurs.
Oui. Moi, je pense que tous les écrivains, c'est au départ, mais c'est des lecteurs qui passent à l'écriture. Parce que lire, c'est épuisant aussi. C'est ça qui déclenche tout. Parce que on découvre le langage, on voit comment c'est fait, on se demande pourquoi on est capable peut-être de faire ça. Après, il y a plein de façons d'écrire. Moi, je fais la différence entre les auteurs et les écrivains.
Alors, voilà.
Et les auteurs, il y en a tellement.
Oui.
Ça va dans tous les sens, je veux dire. Écrivain, c'est pas pareil. Écrivain, c'est le mec qui joue sa vie ou la femme, le personnage. C'est obsessionnel, c'est tous les jours. Après, c'est comme la peinture, il y a le croquis, le fusain, l'aquarelle, quelle forme on choisit, etc. Et après, ça peut rendre fou, je comprends, parce que pour écrire un livre, je me dis, mais comment c'est possible tous les matins, la température, j'ai toujours le mot température, parce qu'entre-temps, on mange, on dort, tout ça, c'est difficile, faut vraiment être 100% dedans, sinon, pour moi, un livre, on le rate, sauf si c'est pas fragment, etc., mais si c'est suivre un personnage, tout ça, c'est terrible, quoi. Je veux dire, les grands romanciers, c'est des virtuoses, c'est exceptionnel. Un écrivain, c'est très très rare. Comme il y a beaucoup de films, il y a peu de cinéastes, il y a beaucoup de matchs de football, mais il y a peu de Maradona, si vous voulez. C'est ça, ça suffit pas l'appellation livre, non, ça suffit pas. On est noyé de livres.
Ouais.
C'est un son. L'écrivain, c'est un son. C'est pour ça que dans ce livre, je me suis dit, c'est pas du roman, mais c'est portraitiste, mémorialiste. C'est ce mélange, c'est tout un art, parce que c'est comme les portraits. Au Louvre, il y a plein de portraits, c'est l'art du portrait, c'est pas facile. Et c'est un mélange comme ça d'anecdotes, de choses puissantes. C'est ça, il faut que ça vive.
Avec une phrase qui fait comme un dessin outré. Il y a surtout vos dernières phrases, Bernard Morlino, j'ai en cité tout à l'heure. C'est comme un dessin entré, on voit tout de suite l'écrivain apparaître, paf, en une phrase. Hein,
C'est le pari, ça bien sûr. Sinon, ça ne fait pas un livre, bien sûr.
Il faut espérer.
La grâce de l'écriture, j'ai parfois.
Oui.
Ça vient.
Est-ce que la contrainte a été stimulante pour vous?
Si, beaucoup. Parce que j'adore ça. Plus c'est petit, plus c'est difficile. Quoi.
Ouais.
Moins on a de place, moins on a de phrases, plus il faut concentrer. Et là, c'est le meilleur, quoi. C'est la liqueur, presque, si je peux dire.
Alors, on va commencer par, on va en faire certains. On va prendre visite à Antonin Artaud. Voilà ce que vous écrivez sur Antonin Artaud. On le disait fou parce qu'il avait trop d'avance sur tout. L'athlète du verbe écrivait comme on part à l'aventure en haute mer ou sur une des cimes périlleuses, ou sur des cimes périlleuses engagées dans les méandres de ses pensées sans le moindre plan de manuscrit et de carrière. Donc, c'est vrai, Antonin Artaud, c'est la fulgurance, sorte de feu de l'écriture. Et c'est encore, moi j'en ai, c'est très puissant quoi.
Très fait. Puissant, c'est formidable. Je veux dire, lui vraiment, c'est pas un romancier. Lui il prenait, sa plume, il commençait, il partait, il savait pas où il allait vraiment. C'est l'équilibriste en danger de mort, on peut dire en perpétuel. C'est le saut en élastique sans élastique. Ouais, C'est ça qu'il aimait. En plus, il a un talent fou parce qu'il était acteur, il savait tout faire. Il écrit des pièces. Il avait le goût du voyage, il a fait des expériences de drogue avant Michaud. On le prenait pour fou, pour moi il n'était pas fou, il a beaucoup souffert, bien sûr, malade. Enfant, il a été malade, il a été mal soigné, après on l'a intoxiqué avec les médicaments. Et la drogue dure, tout ça, les électrochocs, incroyable. C'est pour ça que je dis, il a inventé le slam, le rap, parce que il a des scansions comme ça. Pour en finir avec le jugement de Dieu, ce fameux enregistrement à la radio, là. Il joue du tam-tam, il crie. C'est bouleversant, ces phrases.
Il est en première ligne.
En première ligne tout le temps. Il dit, par exemple, les Américains, s'ils font des enfants, c'est pour faire des soldats, tout ça. Ouais. Il chante, il crie. C'est magnifique. Il y a des témoignages, on dit qu'il marchait dans Paris avec une canne, que ça faisait des étincelles sur le trottoir.
Je dirais qu'il a pris un bon court-circuit aussi. Hein. Ouais. Il était en ça. Mais alors voilà ce que vous écrivez. Les petits détails encore. Sujet à des problèmes nerveux suite à une sévère chute sur la tête. Séance d'électrothérapie. Il apprend que ses deux grands-mères sont sœurs.
Voilà. Non, en plus, c'est tout ça.
Non mais c'est dingue. Et donc ses parents cousins. Donc il apprend entre deux séances. Donc c'est ça que j'aime bien parce que il y a ce qui est officiel. Et puis ce qui est
En marge. C'est capital quand il apprend ça.
Et ça explique tout, ça explique beaucoup de choses. Enfin, ça explique.
Une sensibilité aussi, imaginez un peu le. Non, mais c'est son parcours, c'est phénoménal. En plus, à Paris, il y a des endroits, l'atelier, là, quand il était à l'atelier, quand il a joué les Sensei, tout ça. On passe même à la coupole, il montait sur les tables. Non, c'est un personnage. C'est un punk, c'est tout. C'est un des plus grands écrivains aussi. Hein. Mais il est en avance, il est encore en avance, il sera toujours en avance. Ouais, il sera toujours en avance. Parce que...
Est-ce que vous l'avez relu? Comment vous avez fait?
Chaque fois, je vous dis, quand je m'imprégnais de lui, je prenais les textes, les livres, comme ça, je baignais dans son univers.
Donc chaque
sentir,
écrivain.
Scientifiquement, comme on dit, chaque fois, je faisais ça. Pour ça, il y a des écrivains dont je n'étais pas lecteur. Je connaissais, bien sûr, Rob Grier. À la fin, quand je dis, mais est-ce que ça rote l'enfance, tout ça? Puis j'ai dit, non, je choisis Rob Grier. Alors j'ai repris, j'ai un peu regardé. Puis je me suis dit, dans son univers, ça existe aussi. Parce que lui, pendant Rob Grier.
Ingénieur agronome,
on serait dans une pièce ici, comme dans le studio, lui, il ne parlerait pas de nous, il s'en fout. Il dirait, il va faire la description du projecteur, tout ça, de tout ce qui nous entoure, sauf nous. Dans ces romans, il n'y a pas d'histoire.
C'est la figuration narrative.
C'est intéressant. Il fallait que ça existe une fois dans la littérature. C'est eux qui l'ont fait, le nouveau roman. Et lui, c'est le leader. Il était lucide parce qu'il a dit que... c'est sa femme qui a dit « Tu fais professeur, laisse-toi pousser la barbe, ça sera mieux. » Il a dit « À partir que je vais laisser la barbe, les gens m'ont aimé. » Il a dit « C'est dingue. » Et après, il a dit, aux États-Unis, les gens m'aimaient plus qu'en France. Et il a dit, c'est merveilleux. J'étais professeur de moi-même, disait-il.
Ah, ça, c'est, oui.
Il m'interrogeait. Ah, bah, il fallait que je parle de moi. Tout ça, mais c'est merveilleux. Voilà, il n'était pas dupe. D'ailleurs, quand il a été élu à l'Académie française, il n'est même pas allé. Il n'a pas fait les visites, il n'a rien fait. C'est l'Académie française qui voulait absolument le faire rentrer. Lui, il n'a fait aucune visite. Il n'a même pas été à la réception. Je veux dire, ça reste un révolutionnaire dans son domaine.
Ah bah c'est un
révolté, un réfractaire. Ouais. On peut dire qu'il a berné le milieu littéraire d'une certaine façon. C'est un temps fort de la littérature française du XXe siècle. C'est sûr, c'est un temps fort. On ne va pas regarder son style. Pas sciorant, je veux dire. Mais il reste... je suis sûr que la postérité retiendra Alain Robbe-Grier, sûr.
Bon, allez, on va gommer Alain Robbe-Grier quand même. On va faire une pause musicale.
présente quand même.
J'ai oublié de mettre mon micro, pardon. Eh bien, Charles Trenet, Verlaine. Tous les deux vont rester à la postérité, il me semble.
J'ai l'idée, on va parler du révisionnaire.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant des blêmes quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Paisible rumeur là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui en présence de Bernard Morlino pour Les 100 qui restent, 100 écrivains du XXe siècle qu'on lira encore en 2100. Ça vient de paraître aux éditions Écriture et ça va faire couler beaucoup d'encre. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez été sur les lieux? Parce que Paris est la ville de Paris est très présente. Est-ce que vous avez été.
Je suis un piéton, de toute façon, voilà. Bien sûr.
Flâner du côté de tel lieu.
Léon-Paul Farc,
voilà,
par exemple.
Vous en parlez beaucoup.
Ah oui, c'est merveilleux.
Merveilleux. Alors là, j'ai beaucoup aimé son Marcel Aimé, par exemple.
Marcel Aimé, Montmartre.
Voilà. Marcel Aimé n'a jamais baissé la garde contre les imposteurs. Les hussards l'ont d'emblée reconnu comme un père spirituel qui ne s'offusquait pas d'être jugé par les pseudo-intellectuels. L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections, disait-il. C'est vrai que Marcel Aimé, grand romancier, tout à l'heure vous parlez de... Je pense que c'est bien de souligner qu'un romancier, c'est un univers. Et là, dans votre livre, c'est très présent, Bernard Morlino. Il y a des vrais romanciers.
De souligner.
C'est des vrais romanciers, c'est des créateurs de
personnages. Bien sûr, là j'ai choisi, il n'y a pas de faux écrivains, même Robe Grier dont on a évoqué, c'est dans son genre, c'est un véritable auteur, à sa manière, mais c'est un véritable auteur. Et Marcel Aimé, donc, vous dites Lilia Montmartre, par exemple, quand on arrive là, où il habitait, c'est un carrefour magique, vraiment, c'est en haut de la rue Truden, c'est dans le 9e. Comment ça s'appelle déjà je perds la mémoire. Carrefour, le Nord 20.
Oui.
il y avait Marcel Aimé, donc en face, Céline, et puis de l'autre côté, Jean-Paul. C'est petit,
ah ouais,
le triangle des Bernunes.
Ah oui,
parce que là, on disparaît, quoi.
Et, quand Jean-Paul parlait de Ferdinand, il y avait de quoi faire. Hein,
Jean-Paul a beaucoup influencé Céline là, dans l'argot, ça, dans la manière de parler. Oui, donc, ils sont tous les trois là. Quel voisinage. Et donc, Marcel Aimé, là, et il y a aussi le, Jean-Marie, il a fait la sculpture, elle y est encore.
C'est le Marcel Passe-Muraille, là.
Passe-Muraille, c'est Marcel Aimé lui-même qui sort.
Oui.
Le genou, le visage, comme ça.
Ouais.
Et fatalité, j'étais là quand Jean-Marie Fignolet a installé cette, parce que j'habitais Montmartre, a installé cette statue. J'ai parlé avec Jean Marais. J'ai dit, vous savez, c'est magnifique, vous avez du talent, parce qu'on vous associe toujours à Cocteau, comme vous êtes un sous-Cocteau, mais non, vous avez été un bon acteur, desservi par votre voix trop aiguë, mais vous êtes un grand personnage, et là, vraiment, c'est fabuleux de faire ça, Marcel Aimé, au pied de son domicile, c'est merveilleux. J'ai dit, les touristes vont venir là toucher comme si c'était la Pietà. Et c'est vrai, il y a quelque chose, pour ça, on reste là. Il y a des ondes, moi je crois.
Ah, il y a des ondes, Marcel Aimé. Hein,
il y a des ondes, Montmartre, c'est pour ça, il y a des ondes. Il ne faut pas venir là quand tous les touristes et tout, mais vous regardez là, vous imaginez qu'il y passait par là, tout ça, c'est fabuleux.
Vous avez connu Dalida d'ailleurs.
Dalida, j'ai habité chez Dalida. Au début, quand je suis arrivé, ça paraît fou. Et c'est. En plus, l'appartement de Céline, fatalité, parce que j'habitais là, puis un jour on tape à la porte, il n'y avait pas encore le digicode, parce qu'il y avait plusieurs entrées chez Dalida, c'était là, les locataires pouvaient rentrer par derrière, donc, et un jour, c'est un étudiant américain, il me dit, vous êtes parent avec Céline? J'ai dit, non, pas du tout. Il me dit, parce que c'est l'appartement où il habitait avec Elisabeth Grec, c'est ici, c'est cet étage-là. Bon, c'est comme ça que j'ai appris ça, j'ai dit, incroyable. Alors c'est pour ça que je me suis dit, j'ai un destin quand même lié à l'écriture. Parce qu'à l'époque, je voyais Emmanuel Berle, j'ai dit quand même, c'est dingue.
Ah bah, les écrivains frappent à votre porte, j'ai ou dit, frappent à la porte des écrivains.
Ouais, j'ai dit, c'est fou.
Hein,
c'est incroyable, j'ai dit, il y a quelque chose, vraiment, c'est mon domaine.
C'est votre domaine, c'est votre territoire. L'univers de Marcel Aimé, dites-vous, Bernard Morlino, est un mélange d'enfance intacte, de rêverie salvatrice et de confrontation avec les autres.
Ouais.
Et ça, c'est beau, voilà. L'usage du loufoque lui permettait de fuir la pesanteur quotidienne. C'est vrai qu'actuellement, on est en pleine
c'est
pesanteur.
C'est une modernité, oui.
Il paraissait absent, mais en vérité, il était perdu dans vos pensées. Ça, c'est ce qu'a dit Blondin, je crois.
Fabuleux, comme anecdote. Perdu dans vos pensées, quelle générosité. Et Marcel Aimé...
Vous le qualifiez de Buster Keaton des lettres.
Ouais. Parce qu'il riait jamais, alors les gens disaient qu'il était antipathique. Non, s'il était malade, maladie de faciès bloquée, il ne pouvait pas rire. Et à Montmartre, il y a le bar au rêve, là, c'est... Un jour j'y vais, je rentre comme ça, je ne savais pas, puis une dame, Eliette, elle est la patronne, était très gentille. Et là, je vais au taxiphone, parce que je voulais téléphoner, je n'avais pas le portable, ça n'existait pas. Elle me dit, là-bas, elle me donne un jeton. J'ai dit, mais c'est fabuleux, il y a encore un taxiphone. C'est fabuleux, elle me donne le jeton, tout, j'y vais, je reviens, je lui parle de ça, elle me dit, vous savez, je le garde, parce que le bar, c'était à mon père, ce taxiphone, personne n'y touchera jamais, parce que c'est là où Marcel Aimé a eu son malaise cardiaque. Et donc, on n'a jamais voulu le refaire, et moi, je le referai jamais, j'adorais Marcel Aimé quand j'étais petite, etc. Il dit, il a eu ce malaise, on l'a amené chez lui, et puis il est mort après. Donc, moi, c'est. Putain, chaque fois, je dis, mais je suis poursuivi par ça.
Ah,
donc, c'était inoubliable d'aller dans ce bar. Il existe toujours, ça a été revendu. Là, je ne suis plus retourné parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus le taxiphone, parce que ça a tellement changé. Le bar, tout ça, je dis, peut-être ils m'ont enlevé le taxiphone de Marcel Aimé.
Il faut dire que dans Paris, beaucoup de choses disparaissent. Ouais. Alors, un autre personnage, un écrivain. Vous voyez, c'est des personnages aussi que j'aime beaucoup. C'est Bachelard, bien sûr.
Ah, Bachelard, c'est immense.
Voilà. Alors, Bachelard, voilà ce que vous écrivez. Comme le travail le délivrait de l'angoisse, il ne prenait jamais de vacances. Les enfants qui ont eu la chance de l'avoir comme professeur, ce futur agrégé de philosophie, docteur ès lettres et licencié en mathématiques, ont pu apprécier sa simplicité d'expression. Voilà. C'est un autodidacte aussi. C'est un homme très, comment dire, présent dans la vie réelle. Et avec. Enfin, vous nous. Là,
c'est
il est
fabuleux.
Présent. Il est...
Ah ouais, Bachelard, c'est merveilleux. Là, c'est vraiment fabuleux parce que. Rien que c'est un philosophe, mais poète, c'est très rare.
Ouais.
Il écrivait bien, parce que les gens que j'ai choisis, bon,
lui, il écrivait, là, Bachelard,
c'est immense, parce qu'il a écrit sur le feu. Comment c'est possible d'écrire pendant 300 pages sur le feu, sur une flamme, c'est incroyable. L'air, sur tous les éléments. Il est, c'est beau quand on le dit, c'est magnifique. Je défie quiconque de d'écrire sur ce thème-là avec sa légèreté comme ça.
Tous les cas, il était pionnier.
Pionnier et surtout un cœur énorme et un bel accent en plus. Donc c'est très rare, j'ai dit, les écrivains, d'habitude ils écrivent avec des idées, lui il écrivait avec des mots. Et il avait un goût, un sens de la vie merveilleux. Il s'est bien occupé de sa fille et qu'il a voulu qu'elle soit vraiment autonome, qu'elle travaille, etc. Il a perdu sa femme, il n'a jamais voulu se remarier et il faisait ses courses.
Voilà ce qu'on
très important.
Bah oui, c'est ça que j'ai noté.
Ouais, parce qu'un jour on est venu l'interviewer, la personne l'a interviewé, puis lui s'est arrêté au brûle-pourpoint. Il dit, je crois que c'était Louis Powels qui l'avait interviewé. Il dit, mais vous me posez des questions, mais est-ce que vous faites vos courses? Comme si on dit à Jacques Chancel ou quoi, il dit non, mais, et ça pose des questions. Il dit, il faut aller toucher les poireaux. Il dit, place Maubert, tous les matins j'y vais, je touche, il faut faire ses courses. Après, il dit, vous êtes né dans une maison. Alors, le journaliste dit non, il dit, mais c'est dommage, c'est très important d'être dans une maison parce qu'il faut le grenier. La cave et le grenier, sa structure avec les escaliers, c'est comme un univers, comme un corps humain. Il dit c'est très important, le cerveau, les pieds, etc. Il faut que c'est la réunion, des phrases aussi simples comme ça, prendre des dimensions extraordinaires. Non, bachelor immense.
Immense, voilà. À partir de 1941, dans le quartier Mouffetard à Paris, il ne laissait à personne le soin d'aller au marché à sa place. À la fin de sa vie, pionnier de l'écologie, il aimait toujours choisir ses fruits et légumes, faire une soupe mettait en joie celui qui ressemblait à Tolstoï. Ouais. Autre phrase de vous, Bernard Morlino, Bachelard est la parfaite jonction entre Freud, Jung et les surréalistes. Donc il y a ce truc de poésie de l'inconscient, de l'inconscient des éléments. Il a été vraiment très important, Bachelard. Hein, avec les écrits de Jacques Lacan sont devenus aussi fumeux que ses cigares, dites-vous. Ouais. Chez Bachelard, tout est consommable. Il reste des inédits de celui qui avait l'imprudence pour méthode de pensée.
C'est vrai, complètement.
Il y a beaucoup d'inédits, Bachelard.
Oui. Beaucoup de choses à publier qu'on n'a jamais lues, sûr.
Bon, écoutez, j'espère que les éditeurs écouteront.
Hein. Je vous conseille de le lire, parce que personne ne peut pas être déçu.
Quel est votre conseil de lecture pour Bachelard?
Mais n'importe le feu, par exemple, tout ce que je viens de dire, là, c'est réédité au puf.
Oui.
Prenez les yeux fermés, vous prenez ça, vous allez voir, vous en sortirez amélioré, comme je dis. Parce que, je veux dire, sortir 300 pages sur un feu, sur le feu, sans être rébarbatif... C'est un défi incroyable, je veux dire.
Il était très moderne, finalement, Bachelard.
Très moderne. Il a pour moi toutes les qualités.
Avec puis, les pieds sur terre.
Ce beau visage. Pionnier, surtout.
Vous l'avez connu?
Pas du tout.
Non, parce que...
Voilà. Il y a des... On a des images, on a des documents filmés de lui.
Ouais.
C'est merveilleux. Je veux dire, la simplicité, l'éloquence, la gentillesse, tout. C'est un grand monsieur de la littérature.
Autre personnage aussi philosophe, si on peut dire, c'est Roland Barthes. Roland Barthes ne se considérait pas comme un philosophe, dites-vous. Et c'est vrai que plutôt qu'imposer un univers, l'essayiste scrutait le sien. La littérature lui paraissait vraiment le lieu où tout est possible, alors que la vie courante est un parcours avec souvent des barrières infranchissables. Devant la page blanche, il était le maître du monde des signes et non du tout Paris des lettres. Donc il y a un côté solitaire de Roland Barthes que vous...
Oui, vous lisez Mythologie par exemple, c'est beau sur le Tour de France, sur le beefsteak, tout ce qu'il a décrit de notre quotidien. Grande sensibilité bien sûr, grand choix de mots. Et lui, quand on l'écoute parler, il est fabuleux, inoptique. Il y a une émission merveilleuse sur Marcel Proust qu'il a fait dans Paris avec Jean Montabelti. Il se promène comme ça, il décrit sur les lieux, on l'écouterait des heures. Je veux dire, il a une fabuleuse manière de parler, un conteur extraordinaire, le choix des mots, c'est terrible. Et ce qui est plus terrible, c'est sa mort, là, quand on pense qu'il a été tué par une camionnette, comme ça, renversé par une mort bête. Je me dis, il devait penser, je sais pas, dans sa rêverie, c'est pas possible. Mais lui aussi, je conseille vraiment ça, de le lire. C'est soit un mot, pas pour un autre. C'est pas prétentieux, c'est pas pédant. C'est aussi un maître du langage, un linguiste phénoménal.
Ah oui.
Ah ouais, c'est un grand maître.
Même on peut l'écouter, quand il parlait, c'était...
Non mais parler, c'est... On redemande, je veux dire... comme je dis, si vous l'écoutez parler de Marcel Proust, on dirait que c'est Proust. C'est même mieux que Proust. Alors, c'est, faut le faire.
Beckett, c'est encore un grand silencieux, celui-là. Oui, on va dire. Vous écrivez, il vécut un grand amour avec Suzanne de Chevaux du Ménil à partir de 1938, mariée le 25 mars 1961. Ils sont restés ensemble 50 ans. Elle est morte le 17 janvier 1989 et lui le 22 décembre, 5 mois après. Donc ils étaient très liés. Hein. Très active pour diffuser l'œuvre de son mari, Madame Beckett était beaucoup plus que la femme d'un écrivain. Et il a pris le mal en patience. C'est vrai que c'est grâce à sa femme qui allait, je crois, démarcher les éditeurs.
Oui, parce que lui, on était vraiment sauvage, asocial, etc. C'est le créateur né, quoi.
Ouais.
Ça l'intéressait d'écrire, point le reste. Il n'était pas là pour vendre ses livres et son œuvre. Et un homme, quand on pense en entendant Godot, par exemple, c'est un chef-d'œuvre. Combien de fois j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire en entendant Godot ? Alors, ma conclusion, c'était en entendant la mort, parce que moi, c'est clochard. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Chacun sa vision, moi, c'est ça. C'est clochard. Et ça fait rire, parce que la première fois que je l'ai vu, je l'ai lu, je n'avais pas vu la dimension comique.
Bien sûr.
Quand je l'ai vu, il y avait Ottomar Kreschka, c'était le metteur en scène. Il y avait donc quand même Rufus, George Wilson, Michel Bouquet, et puis le petit rôle, c'était Fabrice Lucchini qui tourne comme ça autour de la scène. Et donc là, ça fait rire. Je me suis dit, ça fait rire. C'est une pièce qui fait rire. Incroyable. Et donc, c'est très important. On oublie la dimension. C'est comme si Tchekhov aussi, ça fait rire.
Ouais.
Il faut savoir lire à la fin, c'est vraisemblablement ça. Et Beckett, donc, cette figure comme ça, lui aussi, multiple talent. Vous savez, il a fait un film avec Buster Keaton, il faut quand même le faire, hein, où il a filmé quasiment de dos. Après, il faisait son théâtre vraiment merveilleux. Et la belle chose, c'est que je l'ai vu. Je l'ai suivi parce qu'un jour, à la mort de Roger Blin, dans Le Monde, à l'époque, je disais Le Monde, il y avait un encadré. Tous les amis de Roger Blin sont conviés au columbarium du Père Lachaise. Je dis ça, je me suis dit, il y aura Beckett. C'est pas possible. Beckett, est-ce qu'il y aura Beckett? Parce que c'est ami, c'est plus ami, c'est Beckett, c'est Roger Blin qui a fait connaître le théâtre de Samuel Beckett. Alors je dis, j'y vais. Et là, putain, vraiment, j'étais groupie, c'est comme si on voit Johnny Hallyday. J'y vais, je vois Beckett.
Donc il avait une présence incroyable.
Beckett, comme ça, avec sa femme. Il avait une gabardine, comme ça, pour retourner, les mains, comme ça, il faisait froid, c'était en février, je pense. Et là, je l'ai suivi, bien sûr, j'avais Dieu que pour lui. On n'était pas nombreux. Je me souviens qu'il y avait, je ne dis pas de bêtises, il y avait Patrice Chéreau, je me souviens de Thibaudat, Jean-Pierre Thibaudat. Je me souviens d'eux. Et donc, c'est un moment terrible. On brûle le corps de Roger Blin, vous imaginez. Et donc, j'arrive comme ça, bon, je suis toute la cérémonie, tout ça. Et à un moment donné, Beckett, il se met dos contre un pilier. Et là, moi, j'avais un Leica, l'appareil de photo, un petit Leica, un vieux des années 50, et je l'ai pris de dos. Je me suis dit, là, il sait pas que je lui fais pas mal, je ne dérange pas. Et à un moment donné, un photographe, je sais son nom, parce qu'après, j'ai vu la photo, mais je ne dirai pas son nom, il s'est intercalé entre l'urne de Roger Blin et Samuel Beckett pour le prendre de face. Et là, il a tourné sa tête, Beckett, j'ai dit, putain, j'aimerais pas choper ce regard, mon Dieu. Déranger Beckett dans un moment prenait, l'auteur dans l'entendant Godot, justement, face aux cendres de son ami. Donc, je suis resté comme ça derrière, et après, je l'ai suivi dans les tombes. J'imaginais, toujours pareil, en entendant Godot, j'ai suivi à travers les tombes, comme ça, avec sa femme. Il ne me voyait pas, je restais à 10, 20 mètres, 7, 8 mètres, on va dire. Et ça s'est terminé à un moment donné, il rentre dans un café, il sort du cimetière, il rentre dans un café. Puis je me suis dit, je pars, et puis après, je suis revenu, je me suis fait voir le nom du café, je reviens, ça s'appelait Au rendez-vous des amis, ça s'appelait. Et après, je me suis dit, là, au début, je tiens quelque chose, là, et puis là, je suis allé à Libération.
Ouais.
Et je dis, à l'époque, je faisais des photos, je publiais dans la page courrier. Et donc, là, je suis allé voir Jean-Pierre Thibaudat, j'ai dit, vous étiez en enterrement, j'ai dit, je l'ai pris de dos. Il m'a dit, ah, mais c'est politique, c'est un acte politique, ça. Parce que, alors, il dit, développe, tu emmènes la photo, j'ai développé, là, comme ça, j'ai fait mon portrait, j'ai raconté dans Libération, cet après-midi-là, voilà, c'est comme ça. Mon après-midi avec Samuel Beckett, sans qu'il m'ait vu, sans que je l'ai dérangé.
Ah, écoutez, ce sera peut-être ça aussi l'objet d'un autre livre, toutes ces rencontres que vous avez faites.
Ouais, c'est possible,
fait,
ouais.
Vous dites, Samuel Bettel a confié qu'il écrivait pour le théâtre sans connaissance dans ce domaine. Il ne voulait pas décoder ce qui ne se... qui n'a pas de code. Ouais. C'est vrai qu'il respectait, il y a un mystère Beckett, hein. Il y a un mystère aussi de son écriture.
Autre... En plus, c'est ça, parce que, je veux dire, comme il était irlandais, anglais, j'ai mis aussi des auteurs qui s'exprimaient en français. Ouais. Ça, Kundera, ses grands livres, après, il a écrit, au début, il ne les a pas écrits en français, après, oui, mais Beckett, il a écrit en français des grands chefs-d'œuvre. S'imaginer, en plus, Sioran, pareil, c'est très important, le fait, comme ça, cet amour du français, ouais. Arriver à s'exprimer aussi bien en étant irlandais.
Ouais. Et c'est vrai qu'on ressent sa présence. On va faire une pause musicale et nous reprenons notre conversation.
Alors, tout à l'heure, nous avons passé une chanson de 1941, Trenet, et là, on saute jusqu'en 2010, où une chanteuse Violaine Schwartz, accompagnée de la contrebasse d'Hélène Labarrière, chante... Du Fréhel, première interprétation en 1935, où sont tous mes amants?
Tous ceux qui m'aimaient tant, jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Grise est imprégnée d'ennui, je vois des ombres glisser dans la nuit. Dans le royaume des jours passés, tous les fantômes viennent danser. La flamme jette un reflet sur les murs, et je crois voir dans les recoins obscurs passer des gnomes, de noirs démons dont je ne sais plus le nom. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? La nuit, ça... s'achève et quand vient le matin, la rosée pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé dans le jour blême, sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême et fort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants? Tous ceux qui m'aimaient tant. Jadis, quand j'étais belle. Adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Nous parlons du livre de Bernard Morlino, Les 100 qui restent, 100 écrivains français du XXe siècle, qu'on lira encore en 2100, paru aux éditions Écriture. Faites vos jeux tout de suite. Alors bon, j'ai bien aimé parce qu'en fait, vous ressuscitez Bernard Morlino, des écrivains qu'on a lus quand on était jeune aussi, hein, qu'on faisait se chercher. Ouais. Bergson, par exemple. Bergson, c'est un sacré personnage. C'est vraiment un philosophe très important. Le rire. Charles Peigny a tenu à dire que Bergson avait réintroduit la spiritualité dans la pensée mondiale. Après, comment Anna de Noël le décrit? Elle dit, c'est une tête de mort éclairée par deux lueurs de magnésium.
Sa tête, ouais, c'est vraiment
C'est fou, quoi. Bergson, c'est toute une époque.
Très célèbre, s'imaginer un petit peu.
Ouais. Mais c'est bien de le retrouver, finalement, parce que...
Ben oui, c'est un temps fort de la littérature française, il est la pensée française.
Alors, votre livre aussi, oui. La difficulté, je trouve, de votre livre, vous êtes sans doute... C'est qu'il y a à la fois des écrivains, des romanciers,
ouais,
des poètes et des philosophes.
J'ai exclu que les chanteurs parce que je me suis dit qu'il fallait des livres quand même.
Mais là, du coup, vous compliquez aussi la tâche. C'est pas facile.
Ouais, c'est pas facile.
De tout rassembler. Là, je me suis posé la question quand je vous ai lu. Donc, c'est bien, je vous ai.
Ouais, merci.
Mais c'est vrai qu'on parle de Bergson, j'ai dit tac, tac. Après, par exemple, vous parlez de Sartre, Simone de Beauvoir. Ouais. Moi, je considère par exemple que Sartre restera plus pour ses romans que pour sa philosophie. Que Beauvoir, par contre, restera plus pour ses essais que pour ses romans.
Ouais, c'est vrai.
Mais voilà. Donc, c'est une complication supplémentaire que vous êtes mis sur le dos. Parce que finalement, vous auriez pu faire
que les romanciers ou quoi. Non, mais j'ai pris comme dire les temps forts de la vie spirituelle aussi. Parce que les écrivains, c'est spiritualité aussi. L'esprit français du XXe siècle. Et donc, Bergson, il en fait partie. Il était vraiment très en point, très à la mode. Quand il faisait ses cours au Collège de France, il avait un monde de fous. Les gens, on faisait la queue. Il piétinait dehors. Il y en a même qui... On laissait, quand c'était l'été, les fenêtres ouvertes. Les gens voulaient absolument l'écouter. Il est rentré, il y avait tout un cérémonial. Il était un orateur exceptionnel. On entendait les mouches voler, j'allais dire. Les gens buvaient ses paroles et c'est d'une intelligence extraordinaire à tous les points de vue. C'est un homme considérable. Et, par exemple, qui peut dire aujourd'hui, comme il disait, n'écoutez pas ce que je dis, mais regardez ce que je fais. C'était sa phrase clé, ça. C'était énorme. Imaginez un peu aujourd'hui une phrase pareille. Et donc, que des qualités aussi. C'est un homme que des qualités. Il avait que des qualités. Pas possible. Un immense écrivain aussi, un prosateur. Je veux dire, il est allé jusqu'à... Il a tellement réfléchi dans sa vie. Il pensait que la mort, c'était un obstacle qu'on pouvait franchir. Je veux dire, rien que ça, vous avez 4 heures. Hein. Ouais. Et, je veux dire, la pensée, il a passé sa vie à penser, mais merveilleux, quoi. Je veux dire, fulgurant, magnifique.
Après, Blondin. Alors, Blondin, il y a justement, je parlais tout à l'heure des détails que vos lecteurs, vos futurs lecteurs vont trouver dans votre livre, Bernard Morlino. Vous dites, par exemple, et c'est rien, ça encore. Naissance à Paris, 17e, le 11 avril. Sa mère, Germaine Ragouillot, est poétesse, autrice d'une dizaine d'ouvrages. Son père, Pierre Blondin, est correcteur d'imprimerie. Et là, moi, j'ai une image tout de suite, c'est l'écriture ronde d'Antoine Blondin, qu'on a tous vu.
Très scolaire.
Très scolaire. Écolier, et je vous dis, tout de suite, il y a tout, là. Le père correcteur d'imprimerie, le soin qu'il a porté.
Ouais. Ces manuscrits, vous avez vu.
Ces manuscrits.
Cette belle écriture tout à fait lisible.
Et je me suis dit, là, voilà, c'est une mère qui fait écrire des poèmes et le père qui a ce souci du bel ouvrage écrit.
Ouais, il a baigné là-dedans.
Vous avez connu Blondin?
Non, Blondin, je l'ai vu une fois. C'est à propos de l'inauguration de la place Marcel Aimé.
Toujours la même place.
Le même endroit.
Ah, bah voilà.
Ouais.
Ça n'arrête pas. Il y a des sortilèges dans cette place Marcel Aimé.
Et je me souviens, il y avait Louis Nucera. J'étais avec Louis Nucera. Et à la fin, j'ai dit, tu vas pas le voir? Il me dit, oh, ça va, c'est triste parce qu'il va dire, il va falloir aller au café, boire. Il va être encore sous. C'est trop triste de le voir comme ça. Il m'a dit, non, c'est comme ça. Je l'ai aperçu comme ça. Et après, je sais parce que pour la ramification, c'est une belle histoire, ça. Je vais la faire courte. Parce qu'à un moment donné, il vivait à l'hôtel à Paris, et c'est Marcel Aimé qui venait régler l'hôtel, sans le dire, sans jamais le dire.
Ouais.
Et donc, chaque fois, Blondin, il disait, qui c'est qui vient régler ma note? Il dit, mais c'est un monsieur qui veut pas dire son identité, c'est comme ça. Mais ça, c'est extraordinaire de savoir ça, sur l'amitié.
Il y a de belles leçons d'amitié dans votre livre, Bernard Morin.
Moi, j'ai un mot pour ça, j'appelle ça l'amourtier. Là, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que j'ai déjà utilisé.
Oui.
L'amourtier, c'est-à-dire, c'est au-delà du sexe. Il y a l'amour, l'amitié. Et donc, l'amour sans sexe, pas platonique, c'est encore plus fort. Ça s'appelle l'amourtier, j'ai inventé ce mot. J'ai dit, moi, je ne voudrais pas laisser un livre, je laisserai un mot peut-être. Amourtier, c'est mon but.
Ben voilà.
L'amourtier.
Nous sommes. Alors, Christian Bobin, qui est mort l'année dernière, je crois, Bobin est mort, mais il a connu le paradis de son vivant, le paradis de mener sa vraie vie. C'était un prix Nobel en puissance et il est parti comme il a vécu, sur la pointe des pieds, emportant son rire volcanique. C'est vrai que le rire de Bobin, on s'en souvient.
Un peu comme Serge Lama, s'il y en a qui connaissent, rire comme ça, tonitruant.
Tonitruant. Ouais. Il préférait qu'on lui reprochât d'oser tout clamer, le verbe haut, plutôt que d'avoir rien su à dire, l'avoir dit quand même, comme tant d'autres. C'est vrai que Bobin, il a un verbe, quand il parlait, il écrivait.
C'est très beau. Je l'ai connu, lui, les trois que j'ai connus, que j'ai mis, c'est Alphonse Boudard, Albert Cossé, Christian Bobin.
Oui.
Christian Bobin, il était. Alors je lui ai demandé un jour, parce que là tu deviens célèbre, etc. Est-ce que tu vas toujours éditer chez Michel Camus? C'était Lettres Vives, là, c'est son éditeur. Il m'a dit, tu as peur que je change? Il m'a dit, non, je resterai fidèle. J'ai dit, est-ce que vous allez faire des émissions débiles à la télé? Il me dit, non, tu peux être tranquille. Et il m'a dit cette phrase magnifique, il ne faut pas s'éloigner de la parole du livre. Je ne ferai que des émissions, parce qu'il a accordé beaucoup d'interviews, mais jamais, en France Culture, etc. Pas s'éloigner de la parole du livre, disons, ça n'a aucun sens. Il dit, faut rester dans la parole du livre. Et donc, Christian Bobin, il a écrit une œuvre considérable, il est devenu célèbre, alors qu'il avait déjà écrit plein de livres. Oui, Daniel Pénat qui l'a rendu célèbre en mettant un acte magnifique, généreux. Lisez Christian Bobin, il a dit à l'écran, comme à l'époque, je crois que c'était pivot, ça a pris beaucoup d'importance. Sur l'effet de sympathie, les gens sont roués sur Bobin, ils n'ont pas été déçus. Alors maintenant, il a beaucoup de contradicteurs. Il y en a qui disent, mais des chroniqueurs littéraires, ça qui est grave, que c'est plein de bondioserie, que c'est bêtifiant, que c'est le retour à la terre, que ça serait un écrivain pétiniste. Mais tout ça, c'est pas vrai, c'est pas du tout.
Non, pas du tout.
C'est un écrivain du cœur, il avait un gros cœur. C'est ça, c'est essentiellement de l'amour, c'est ça.
Et aussi de la mort, il en parle.
Bien sûr, il parle que de ça, finalement. Il est mort, on attend son dernier livre, c'est sur la mort.
Oui.
Il va paraître. Et je l'avais sélectionné, lui, avant qu'il meure. Un jour, je vais au kiosque. Un jour, c'est le 23 novembre 22, je pense.
Oui, c'est l'année dernière,
ouais.
Déjà un an.
C'était la date de mon anniversaire. En plus, je prends le journal, etc. Et je vois mort de Christian Bobin. Non, c'était peut-être Le Monde, c'est apparemment, c'est tout décalé. C'est Le Monde des livres.
Ouais.
Mort de Christian Bobin, le 23 novembre. Je ne savais même pas. Et je l'avais sélectionné dans mon livre, je l'avais retenu, parce que quand je réfléchis sur les écrivains contemporains vivants, je voulais absolument le mettre. J'ai regardé, j'ai réfléchi à tout, j'ai dit, lui, il a sa place. Un écrivain authentique, comme il n'habitait pas Paris, en plus, les gens se moquaient de lui.
C'est le grotesque. Crozo.
Moi, j'ai écrit, au tout début, c'est ce qui nous a rendus amis, parce que j'avais écrit un texte sur lui, j'avais dit, pas besoin de paraître pour exister. Et il a été sensible au point qu'il a me demandé que mon texte figure dans le livre L'Erne, les cahiers de L'Erne.
Oh, formidable.
Parce que c'est un, j'ai écrit ça dans les années 90. Formidable. Voilà, ça m'a fait plaisir. Non, mais il a accepté que ce texte soit dedans, quoi.
Oui, Bobin, c'est l'ermite du Creusot. Moi, j'avais eu une interview avec lui, mais c'était écrit. Il m'avait répondu avec sa machine à écrire, hein, à l'époque. Ouais. Mais,
comme
Bobin...
tous les poètes, il habitait dans lui-même. C'est comme Victor Hugo a dit, c'est, chaque poète a un monde enfermé dans lui-même. C'était son cas. C'est un authentique poète. Et lisez-le, c'est merveilleux, je veux dire, merveilleux.
Alors, un autre que vous avez connu, puisqu'on va parler de ce goût, Albert Cosseri. Ouais. Alors ça m'a beaucoup amusé. Il regardait la télévision, souvent sans le son, pour s'indigner de la crétinerie institutionnalisée.
Ouais, ça, c'est vrai.
Surnommé Goldfinger par ses amis à cause de sa réputation de tombeur. Albert Cosseri, qu'on voyait figure de Saint-Germain-des-Prés, qui vivait à l'hôtel La Louisiane.
Complètement. Là, je l'ai rencontré, j'ai choisi.
Alors, comment vous l'avez rencontré, Bernard?
Là, c'est facile, parce que quand on est chroniqueur littéraire, à l'époque, journaliste aussi, pas que des chroniques.
Oui.
On peut rencontrer les gens, c'est ça que c'est fabuleux. Donc j'en ai rencontré, je ne me suis pas privé, les gens que j'aime. Et donc lui, tout de suite, j'ai attaché de près, etc. Je voulais rencontrer. Ça s'est fait, la rencontre. On est allé boire un coup tout de suite. Je l'ai attendu à l'hôtel de la Louisiane. Il est descendu, toujours impeccable, habillé comme ça, formidable. Ça,
dandy,
ça clope.
Hein, ouais.
Mon rêve, c'était d'accéder à sa chambre. J'ai demandé un jour, deux ou trois fois que je l'ai vu, j'ai dit, vous pouvez pas montrer, voir là, votre chambre? Il m'a dit, ah non, non, j'ai rien d'intéressant. Il dit, c'est une chambre... J'ai rien, pas, c'est pas intéressant, voilà, ce qu'il m'a dit, mais bon, bref. Et on parlait comme ça, on regardait, il adorait, c'était un observateur de nez, et il disait, les gens croient que je suis paresseux, pas du tout, j'écris peu de livres, parce que ça suffit, pas besoin d'écrire des livres sur une maîtresse, un vaudeville comme ça, la main, ça n'a aucun intérêt, avec ça, il dit, non, non, non. Moi, j'ai écrit peu de livres, mais il savait que c'était Albert Cosseri, parce qu'il a dit, j'ai été reconnu par Henri Miller, etc. Il dit, j'ai été aimé par des grands, Henri Miller. Il a dit, j'ai écrit des livres, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mes livres que j'ai écrits, et donc, et il dit, moi, je suis un artiste oriental, je n'ai aucun complexe, il dit, aucun... Comment dire, je me prive de rien. Si j'ai pas d'argent, ben j'ai des amis, je convoque mes amis, je leur demande de l'argent parce que moi je suis l'artiste. Eux ils travaillent, bon ils sont comme ça, mais moi je suis l'artiste pour raconter le monde qu'ils voient même pas. Et donc je n'ai pas de culpabilité à leur demander un peu d'argent. Il dit, je ne suis pas bien sûr une prostituée, je suis un artiste. Et donc ça mérite un certain dédommagement. Il dit, donc je vis comme ça, droit d'auteur j'en ai pas beaucoup, mais par la gentillesse de mes amis. Et je suis, il insistait, un oriental comme ça n'a pas le complexe des occidentaux, comme ça, il a dit, il n'y a aucun problème là-dessus.
Ouais.
J'ai besoin de rien, mon paquet de cigarettes, mon café, ma chambre d'hôtel, c'est
oui,
tout.
Ça c'est l'avantage,
c'est ce qu'il
des
disait.
Écrivains,
ouais.
On peut vivre avec trois fois rien, écrire avec trois fois rien.
C'est un contemplatif, il regardait défiler comme ça, il rigolait, se moquait, bon, ça, mais c'est de l'humour, beaucoup d'humour.
Vous écrivez, son activité principale fut de combattre les fausses valeurs. Ouais. Marié avec la comédienne Monique Chaumette, il divorça parce qu'il avait mieux à faire que partager. Il disait que partager la vie avec quelqu'un l'empêchait de penser.
Ouais.
Ça, je trouve ça extraordinaire.
Ouais, c'est vrai. C'est une perte de temps. Il n'était pas fait pour ça parce qu'il dit, si je suis artiste, moi, je suis né artiste, c'est mon destin, je dois l'accomplir. Donc, vous ne pouvez pas, tâches ménagères, c'est impossible. D'ailleurs, qui vivent à l'hôtel, c'est lourd, c'est, ça
alors,
dit beaucoup.
Alors, il y a des écrivains que vous... Il y a des écrivains que vous aimez beaucoup. Sandrard, il faut quand même qu'on en parle. Bref, Sandrard. On a autre chose à faire dans la vie que d'écrire des livres, disait-il, et pourtant, il n'a pas arrêté.
Il n'a pas arrêté.
Écrire, c'est superflu, disait-il encore.
Ouais.
Et ça, on sent que vous l'aimez beaucoup, Blassandra.
Beaucoup, bien sûr, j'adore. Et là, j'ai connu quelqu'un qui l'a connu, comme
mais
ça,
oui,
c'est
mais
fabuleux.
C'est déjà
Philippe
bien.
Soupeau.
Oui, bah, extraordinaire.
Bien sûr, Philippe Soupeau, extraordinaire. Vous remarquerez que je ne l'ai pas mis. Dans les surréalistes, j'ai choisi André Breton. Bon.
Oui.
Philippe Soupeau m'en a beaucoup parlé. Blassandra, c'est un homme de compagnie exceptionnel, merveilleux, très gentil. Et il aimait la vie, il fumait comme c'est pas possible. Un grand soldat, il a perdu un bras, il est devenu manchot. Il a donc dû apprendre à écrire dans la main gauche. Taper avec un doigt comme ça. Un grand voyageur. Alors certains lui ont dit, par exemple, Transsibérien, vous l'avez jamais pris. C'est pas possible. Lui, il a dit, mais si je te l'ai fait prendre, c'est merveilleux, un écrivain, ça te le fait prendre, pas besoin que je l'ai pris. et etc., etc. Et après, comme homme, il aimait la vitesse, il conduisait, on ne sait pas combien il passait les vitesses, il avait fait tout un trafic, et il conduisait la voiture de Georges Braque. Il avait acheté une voiture de Georges Braque. Et sa fille, Myriam, avait une peur bleue, parce que son, il roule à tombeau ouvert.
Et sa fille, Myriam, a beaucoup fait pour son père.
Ouais, notamment une grande biographie. Elle s'occupe bien des œuvres de son père. Il habitait Villefranche-sur-Mer, il habitait partout. Et c'est un homme, un bon, très grand prosateur, bien sûr. Sens des mots. Puis ce physique, on aurait dit un garagiste, ça que j'ai mis, parce que les écrivains sont sur ton physique, peu rébarbatif pour moi. Ils sont ces académiciens là, sont des guignols quoi. Lui non, lui il a un physique de garagiste. On dit, il sentait le cambouis, le garage. Et je veux dire, quand on le lit, c'est merveilleux. Tous ces livres, on peut prendre n'importe lequel, il vous embarque comme ça. C'est que ce soit ses poètes ou ses grands romans, c'est pour moi c'est un phare du XXe siècle.
Camus, la gloire de son vivant n'a pas abîmé, dites-vous, sa personnalité. Né pauvre, il ne fut jamais un parvenu.
Jamais.
Il vécut sa condition d'écrivain, certain d'être un appelé. Ça, c'est une belle phrase. Certain d'être
complètement.
Un appelé.
Il, c'est ce qu'il disait tout. Tu es un appelé, toi, quand on lui disait qu'on voulait écrire. Tu es appelé, sinon c'est pas la peine. Si c'est fabriquer des livres, c'est pas bien. Et là, par Emmanuel Berle, j'ai lu une lettre exceptionnelle de Camus, complètement inédite, où il dit à Berle, maintenant quand même, on pourrait faire comme les autres, se laisser un peu aller quand on écrit. Vous imaginez un peu ? Se laisser un peu aller quand on écrit. L'exigence comme ça, c'est pour ça que je retiens. Dans mon livre, au moins 90%, presque 100%, je dirais, ce sont des écrivains qui se battent avec le langage. Moi, j'aime que les écrivains qui se battent avec le langage. C'est pour ça que je fais la différence auteur. Un auteur, il raconte une histoire, un écrivain, il se bat avec le langage. C'est-à-dire, vraiment, c'est comme le sculpteur, tic, 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 un coup de massette, paf, casse la pierre, et ça prend des proportions terribles.
C'est un combat, l'écriture, pour
vous. Un combat complètement acharné avec le langage, avec ce qu'on veut dire, comment le dire, pourquoi le dire. C'est terrible, quoi. Et tout ça avec une gomme. Parce qu'il faut, moins on en dit, plus on en dit. Donc,
il y a deux écoles, le travail.
Ouais. Donc, Camus, c'est pour ça, c'était une gloire. Heureusement qu'il a été connu de son vivant. C'est une gloire vraiment intacte. C'est le, comment dire, c'est pas la presse qu'il a inventée, comme tant d'écrivains. Lui, c'est le public qu'il a découvert. C'est le public qu'il a aimé. Et c'est très important comme ça. En plus, là, je parle des hommes, je parle pas de l'œuvre, c'est fait exprès, hein, pour dissocier, je veux dire. C'est pas, on dirait que je parle comme si c'était des artistes de variété, non. Mais c'est vrai que j'ai une dimension de groupie comme ça, que j'aime les écrivains, je veux les rendre. Il faut qu'ils me touchent humainement pour que l'œuvre me touche.
Alors, bon, pour Claudel, par exemple, on va pas s'attarder sur Claudel. Mais c'est vrai que vous montrez, vous soulignez quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'il a été longtemps un auteur d'avant-garde.
Oui, bien sûr.
Et révolutionnaire à son fond. Vous dites, il n'est pas que prisonnier des bondieuseries, c'est voilà, un auteur qui était d'avant-garde. C'est très important de souligner ce qu'était un écrivain avant, qui est l'étiquette définitive, si on peut dire, qui va lui coller après.
Cocteau. Non, je voudrais un mot sur Claudel, pas longtemps, parce que il est mal connu, parce que pendant la guerre, il a été très important. Parce qu'il a dit, vous savez, sa sœur Camille Claudel, il a dit, elle est mort folle, enfin folle entre guillemets. Lui, il a dit, un artiste, si vraiment, il est artiste à 100%, il va devenir fou, il ne peut que devenir fou. Donc il a dit, il faut que je fasse une profession vraiment avec, canalisée. C'est pour ça qu'il a dit, je vais devenir haut fonctionnaire. Pendant la journée, je ferai quelque chose vraiment très carré. Et après, je me consacrerai à la folie totale, c'est-à-dire c'est la création artistique. Et ça, c'est très important dans la construction de Paul Claudel par rapport à sa sœur. Ça dit beaucoup de choses. Et à la fin, il disait, j'ai peur pour la nouvelle génération, parce qu'il y aura beaucoup de folie en perspective. Puis il a dit, oh non, parce qu'il y a très peu de talent, finalement, en éclatant de rire, il a dit ça. Oui. Il a dit, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent vraiment aller à fond, dans l'inconnu de la créativité.
Vous dites qu'il a rendu visite à... Vous dites, celui que Drieu La Rochelle, moi j'aime pas tellement Drieu La Rochelle, considéré comme le plus humain des écrivains, n'est allé voir que 12 fois sa sœur enfermée. Bon.
Ouais, ça c'est vrai aussi. C'est pas bien occupé de sa sœur, toute la famille d'ailleurs, on peut pas... Non, ça c'est pas possible.
Alors, Cocteau, c'est bien parce que vous lui... Il y a voilà encore un détail. Le premier recueil de vers de Cocteau, c'est la lampe d'Aladin. Et on ne peut pas mieux trouver pour Cocteau, la lampe d'Aladin. Et puis, vous lui rendez hommage au couple qu'il formait avec Jean Marais. Vous dites finalement, le duo Cocteau-Marie est un couple référence du XXe siècle, plus Qu'Aragon-Triolet, Sartre-Beauvoir ou Montand-Signoret, Cocteau et Marais, eux jouaient franc jeu, pas de cachotterie. Voilà, il y avait, c'était...
C'était très beau leur histoire, magnifique. En plus, Jean Marais a dit au début, il n'aimait pas Jean Cocteau. Quand il l'a vu, il a dit, finalement j'ai cédé par arrivisme. Je me dis, il va beaucoup m'apporter, il connaît tout Paris, il va me parisianiser, je vais devenir plus célèbre avec lui. Et tout de suite après, quand il a commencé à connaître Jean Cocteau, il s'est dit, mon Dieu, je deviens un génie. Là, il est devenu éperdument amoureux. Et c'est une grande histoire d'amour, bien sûr, pionnière comme on le voit. Et ils n'ont pas fait... C'est pour ça que des fois, quand je vois les Hauting, Comillac, tout ce qu'on raconte, pas ça, il y avait André Gide, enfin avant, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est très important, bien sûr, mais c'est pas nouveau, quoi.
Ouais.
Jean Cocteau.
Jean Cocteau,
quand je vois des chanteurs qui disent oui, mais je suis homosexuel, mais Jean Cocteau, tout ça, c'est pas un problème d'être homosexuel, je veux dire.
Vous dites il était pour le singulier contre le pluriel. Ouais. Peut-être était-il libertaire à sa façon. On va faire une pause musicale et nous reprenons notre conversation.
Ouais.
Une brève pause musicale.
Une brève pause musicale de deux qui resteront. Anne Sylvestre qui chante Monsieur de la Fontaine. En 1997.
Monsieur, monsieur de la Fontaine, je vous aborde sans mitaine, mais en me voilant quelque peu, on se protège comme on peut. Monsieur, monsieur de la Fontaine, si je vous semble un peu lointaine, ça vient d'une crainte que j'ai, que vous me preniez pour un jet. Si j'ai ramassé votre plume, une fois n'étant pas coutume, j'ai mis la mienne à ses côtés. Mais n'en soyez pas rebuté, je n'ai qu'effleuré vos volumes. On pourrait dire que nous fûmes de compagnons en fablerie du côté de Château-Thierry. Monsieur, monsieur de la Fontaine, oui j'ai couru la prétentaine dans toutes sortes de chansons, quoique n'étant pas un garçon. Monsieur, monsieur de la Fontaine, on ne met plus en quarantaine l'esprit des filles, vous verrez que vous en redemanderez. Si j'ai parlé cousinage, n'en prenez surtout pas ombrage, ce ne fut pas à vos dépens, vous n'êtes certes pas un pan, vous avez un plus beau ramage, et s'il faut parler de plumage, n'imitons pas Maître Corbeau, on nous traiterait de cabots. Monsieur, monsieur de la Fontaine, si en bonne samaritaine j'ai défendu à Liboron, j'avais de très bonnes raisons. Monsieur, monsieur de la Fontaine, en tout cas je suis bien certaine que je ne vous ai pas trahi, et j'en ferai la preuve ici. Monsieur, monsieur de la Fontaine, en tout cas, je suis bien certaine que je ne vous ai pas trahi, et j'en ferai la preuve ici.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Nous disons tout d'un livre, Les Sangs qui restent, de Bernard Morlino, aux éditions Écriture. Bernard Morlino, bah, on va retourner à... On n'aura pas le temps de tout évoquer. Julien Gracq. Alors, Julien Gracq, c'est vrai que c'est un vrai de vrai, là. Hein. Attention, c'est vraiment un écrivain. Être écrivain, voilà, il parle de Philippe Solers, qu'on a vu filmer, je crois, dévalant un toboggan, c'est
Dans une émission de télévision, il est rentré comme ça, c'est la tradition, tous les invités devaient descendre en toboggan, tac, comme ça, il a accepté ça. On ne voit pas Julien Gracq faire ça.
Voilà. Et vous dites, Julien Gracq faisait de la littérature comme Robert Bresson fait du cinéma. Tout l'art de Julien Gracq, Louis Poirier pour l'état civil, consistait à effacer les collures entre les phrases et les chapitres. Et vous écrivez, c'est le début de notre conversation, artisan du langage, il lisait ses livres avant de les écrire. C'est très important. Ouais. Actuellement, beaucoup d'auteurs ne se relisent pas, ne lisent pas, et les éditeurs encore moins. C'est vrai.
Non, c'est vrai. Lui, c'est de la marqueterie, comme ça. Il met un temps fou, je veux dire. C'est un peu comme Balthus, il mettait aussi beaucoup de temps à peindre. Et lui, pareil. Donc, il était professeur comme professeur, donc, tous les jours. Et après, dans son établi, on peut dire, son bureau, c'était un établi. Il prenait vraiment une écriture pas à pas, comme ça, il menait son langage, sa vision du monde et ce qu'il voulait dire, sa vision de l'humanité. Et il avait un comportement comme ça, vraiment un pur de la littérature, puisqu'il a refusé les honneurs. Paradoxalement, c'est bizarre, c'est souvent comme ça. Il a refusé le Goncourt et finalement, c'est un des Goncourt dont on se souvient le plus. Il y en a plein qui ont eu le Goncourt, on ne sait pas qui l'ont eu.
Et puis après, il a écrit La littérature à l'estomac.
La littérature à l'estomac est un pamphlet formidable contre tous les imposteurs, je dirais, de la littérature, comme ça, qui crient, qui sont des génies. À la fin, on oublie que c'est eux qui ont fait démarrer, qui l'ont dit en premier, quoi, je veux dire, qui vivent là-dessus pendant toute leur vie. Mais je les comprends parce qu'ils sont stressés, comme ils savent que de leur vivant, on ne parlera plus d'eux. Autant que après leur mort, je veux dire, on parlera plus d'eux autant qu'ils soient connus de leur vivant. Alors Julien Gracq, à la fin de sa vie, il a dit si être écrivain c'est ça, dans ce ça, et ça voulait dire tout le dégoût qu'il en avait, mais je n'en suis plus, il a dit. Ça c'est hyper fort. Donc à lire d'urgence, là c'est la littérature pure et dure à 100%.
100% avec une phrase, vraiment une très belle phrase. Yankelevitch, que j'aime beaucoup. Alors, vous m'apprenez. Son père, Samuel Yankelevitch, fut le premier traducteur de Sigmund Freud. Voilà, encore des trouvailles qui
éclairent beaucoup.
Bernard Morlino.
Yankelevitch, lui-même, disait parlez-nous de la philosophie. Il dit non, on ne peut pas prendre des philosophies. Il faut la vivre intensément. Il était d'une humilité merveilleuse. Et un homme aussi qui... un continent à découvrir, à aimer absolument. Il avait cette rage de l'existence. Après, bon, bien sûr, il avait la dent dure contre les Allemands. Il ne voulait pas entendre parler de l'Allemagne après tout ce qu'ils ont fait pendant la guerre. C'est que vers la fin, il a accepté de voir un jeune homme qui n'a pas connu la guerre. Finalement, il a voulu le rencontrer. Mais donc, un homme 100% authentique, un plaisir lumineux, rien que son visage, comme ça.
Son élocution.
Élocution, quand vous voyez, bon, apostrophe, c'est ce qui l'a rendu célèbre, bien sûr. Tant mieux. Mais magnifique humainement, artistiquement, à tous les niveaux. C'était un homme exceptionnel du XXe siècle.
Un homme de goût, dites-vous, dont le parcours ne comprend aucune fausse note, alors qu'il était mélomane. Il a écrit d'ailleurs 12 livres sur la musique.
Pianiste à ses heures, à ses longues heures, non. Vraiment, un destin accompli, heureusement, 100%.
Léoto, j'aime bien aussi.
Léoto,
quel personnage. Méfiez-vous d'un écrivain qui... Ça me fait un peu penser, le pendant, ça serait Jouandeau, dans l'autre côté, un peu dans la Creuse, Jouandeau, Léoto à Paris. Ouais. Méfiez-vous d'un écrivain qui a fait sa carrière sans rien demander à personne. Enfin, Léoto, c'est vraiment le personnage, quoi. C'est vraiment la gouaille. Puis la grande culture, la grande écriture.
Et imbibé de littérature, c'est que ça, je veux dire, habillé en lambeaux, en guenilles. Il respirait littérature du soir au matin, il est encerclé de chats, parce que l'humain, le misanthrope, est dégoûté par l'humanité, il s'encerclait de chats. Il a laissé beaucoup les droits d'auteur à ses chats. Et il a écrit son journal qui est une mine.
Bah voilà, pour
le journal, mais je veux dire, ça, c'est fou. Dans votre vie, si vous lisez qu'un livre, celui-là, il y a plein de tomes. Chaque fois, c'est du pugilat, c'est de l'escrime. C'est un lutteur de langage de haute lutte. Non, un homme merveilleux, écrivain par excellence, un des plus grands prosateurs du XXe siècle français.
Ouais. Vous écrivez votre journal, Bernard Morlino ?
Je l'ai tenu, puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai tout jeté parce que ça ne tenait pas la route, c'est trop anecdotique. Et je me suis dit, j'ai extirpé des aphorismes.
Oui.
J'ai dit, on va retenir ça, c'est déjà énorme, si ça tient la route, mais l'essentiel du journal, non. Si c'est pour faire moins bien que Jules Renard et Paul Léoto, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien.
Alors souvent, d'ailleurs, dans votre livre, il y a des duos, finalement. Il y a le duo, par exemple, je trouve, hein, qu'on pourrait... Je dirais, il y a un hommage à Maurice Leblanc et je crois... l'auteur de... Enfin,
un autre. Tous ceux qui inventent les personnages, comme Arsène Lupin, Zorro,
voilà,
Tintin.
Il y a Simenon et Simonin.
Simenon,
parce que... Alors, Simenon, c'est très intéressant, parce que vous dites qu'en fait, c'est un expérimentateur. Il pousse ses personnages à l'extrême pour voir ce qui déclenche
les faits divers. L'essor, l'être humain, on est encerclé de faits divers. Et Céline disait pas la peine d'écrire des faits divers. Il y en avait plein les commissariats. Et lui, il allait dans les commissariats, l'enquête. Et ces enquêtes, ça part de rien. Une pluie comme ça sur une tôle. Ça fait découvrir des catastrophes. C'est l'art de l'atmosphère. C'est le peintre, l'écrivain de l'atmosphère. En deux phrases, il vous décrit tout, quoi. Je veux dire, il y a tout. Exceptionnel. Ouais. Sa manière de démarrer les romans comme ça, c'est pas pour rien que le lecteur se trompe pas. Je veux dire, c'est vraiment le polar, mais lui, il a mis les lettres de noblesse au roman policier. C'est de la haute littérature. Et je veux dire, il mettait quelques semaines à écrire un livre, hein, encore moins pour les corriger. Il transpirait, perdait de l'eau comme Johnny Hallyday après un concert. Il y a plein de multitudes d'anecdotes autour de lui, son attrait des femmes, etc. Le suicide terrible de sa fille. Non, c'est un monument. C'est l'arc de triomphe de la littérature française.
Oui, vous le disiez, raccommodeur de destinée. Georges Simenon place ses personnages dans des situations extrêmes pour observer leurs réactions, sans masque social. Après, il y a Albert Simonin, le Chateaubriand de la Pègre, dites-vous. Et puis, un autre duo, donc plus contemporain, Leclésio, que moi j'aime beaucoup. Son silence parle à l'écrit comme à l'oral. Sur une photo prise par Henri Cartier-Bresson, le jeune homme est en costume-cravate. Les coups peigne visible dans les cheveux blonds, il fit vieillir toute la NRF. C'est vrai, il paraissait mystérieux, un mystère entretenu par son nom à rallonge, c'est vrai, réduit à ses initiales JMJLC, Jean-Marie Gustave Leclésio. C'est vrai que l'apparition de Leclésio avec le procès verbal en littérature, à l'âge de 24 ans, il y a un tournant là qui se fait, et il y a aussi Modiano, enfin les deux. Voilà.
Ce sont les deux, on va dire, de toute façon c'est les piliers de la nouvelle littérature française.
Deux Nobel d'ailleurs.
Ouais, deux prix Nobel mérités, et Leclésio, ça va être une révolution en 63, le procès verbal qu'il a envoyé par la poste, ce physique, Robert Redford, on aurait un acteur. C'est très étonnant, et après bon, sa prose, comme je dis, c'est plus un écrivain du fond que de la forme. C'est pas quelqu'un qui distribue des aphorismes comme Michel Audiard, par exemple, ça n'a rien à voir. Lui, c'est la gravité du monde qui décrit la noirceur, la lourdeur. Et on peut résumer ça sans Adam Polo, par exemple, dans le personnage de Le procès verbal, son premier livre, c'est d'une actualité brûlante, parce qu'il décrit un être humain qui va devenir à la lisière de la folie, de la violence extrême, parce que le monde ne nous convient pas. C'est extraordinaire, je veux dire, c'est un grand livre, le procès, un chef-d'œuvre. On se demande après comment il a pu en écrire d'autres, parce que quand on a dit tout ça, c'est tellement condensé. C'est formidable, c'est un auteur. Il va avoir 84 ans, c'est un de nos doyens. De toute façon, je me dis, c'est pas possible qu'il ait 84 ans. Pour moi, c'est comme Elvis Presley, parce que ça vieillit pas. Et c'est beau d'ailleurs qu'il puisse devenir vieux, parce qu'il va pouvoir. Il a pu, comme ça, dérouler toute son œuvre. C'est fabuleux, c'est très rare comme Fontenelle, comme ça, jusqu'au bout. Quand on pense à Radiguet qui meurt à 20 ans, lui, non, jusqu'au bout. C'est difficile de se renouveler, de poursuivre une œuvre comme ça qu'on a commencé en 63. Formidable, et Modiano, pareil, dans un autre genre, parce que là, c'est plus le styliste, mais très, très important. Les deux, ce sont les piliers modernes.
Oui, et avec une grande modestie, parce que l'un et l'autre sont
très discrets, on ne les voit jamais, ils n'occupent pas, comme je dis, ils n'ont jamais fait le trottoir médiatique, ils sont c'est des purs de la littérature, et ils se consacrent à ça, c'est merveilleux, ils se consacrent à nous, parce qu'ils parlent pour nous.
Alors, parmi les femmes, il y en a, il y en a beaucoup. On parlait de Simone de Beauvoir, vous parlez d'Annie Ernaux,
Violette
Leduc. Marguerite Yourcenar, vous lui rendez un très bel hommage. la décision d'être soi. Vous dites, Marguerite Yourcenar était partisane des actes indépendants qui brisent les conventions. C'est très bien vu, parce que c'est vraiment l'écrivain indépendant, aller à mon désert, insulaire complètement.
Elle n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, ni prenait quoi que ce soit, elle a vécu comme elle voulait. Elle a été très marquée par son père, qui était d'une grande modernité, à tous les sens du terme, et se consacrait aussi, pareil, que ce soit un homme ou une femme, elle a vécu son destin. Formidable, toute sa vie consacrée à la littérature, ça tient la route. Alors Jean d'Ormesson l'a fait rentrer à l'Académie française, elle a été ultra médiatisée à cette époque-là, mais c'est mérité, et donc c'est un phare aussi, phare de la littérature française.
J'étais, alors certains seront, il y a Virginie Despentes.
Virginie Despentes, bien sûr. Alors, parce
un
que
peu sur, enfin certains.
Il y a beaucoup se surprennent, je ne vois pas pourquoi, comme je dis, il n'y a pas d'exclusion, pas de sectarisme. Mm-hmm. Alors quand j'ai dit je prends le 21e siècle, la postérité prend le 20e siècle en considération, dans les dernières années du 20e siècle, elle est arrivée, comme Houellebecq, parmi tous les gens qui publient, donc ce sont mes contemporains là.
Donc là on est dans le contemporain.
Complètement, hein. Je dis c'est elle que je sors du lot parce que il y a vision du langage, ce qu'elle dit, comment elle le dit, ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne, ça tient la route. Il y a quelques écrits comme ça, et c'est bien sûr ça fait penser à la musique, c'est très important. Et ça existe 100%, elle existe, elle a sa place dans le livre, et je suis sûr que la postérité la retiendra parmi tous les auteurs qu'on voit actuellement. Elle sera dedans l'histoire de la littérature française.
Marguerite Duras, bien sûr, qui est dedans, donc un peu, enfin, qui est une autre escapée des éditions de Minuit, Annie Ernaux,
pareil, je vois qu'elle est très décriée, je suis alors ça, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, elle pense ce qu'elle veut, mais ses livres, c'est de la littérature. Vous prenez la place pour prendre que celui-là, c'est magnifique. Tout ce qu'elle raconte, c'est magnifique. C'est-à-dire ce complexe qu'elle a eu donné par la société, comme ça, parce qu'elle n'était pas à sa place. Normalement, elle aurait dû être caissière, elle est devenue professeure. Tout ça, c'est très fort et très beau, et ça reste. En plus, quand elle écrit, elle dit qu'elle démarre jamais un livre à la légère. Il faut une longue macération, comme sur quand elle a écrit sur son avortement, pendant des années, il faut qu'elle trouve la forme. Si elle ne trouve pas la forme, elle ne commence pas le livre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va nous raconter son petit narcissisme. Là. Non, nombrilesque. Non, c'est une écriture puissante et formidable.
Tu es un peu surprise. Irène Némirovski.
Alors, elle est revenue au point du jour. Un martyr, elle dit qu'elle est morte par la France et non pas pour la France. C'est-à-dire que c'est la France, la police française qui est venue la chercher parce qu'elle était juive. C'est dramatique. Et grande écrivain, heureusement, elle a vécu une belle période parce qu'elle était très célèbre, romancière très célèbre, très à la vogue, plein de films ont été tirés de son œuvre. Et sa fille, une de ses filles, l'a remis au goût du jour au point qu'elle a été récompensée par un prix littéraire posthume, Renaudot, ce qui est rarissime, même unique.
Bon, après, il y a Françoise Sagan, Louise de Villemorin sur une tonalité plus légère. Georges Perec, bien sûr, c'est un très grand, ça.
Georges Perec.
On allait faire. Sans évoquer Georges Perec. Géo trouve tout des lettres, mais on l'adore, le Géo trouve tout des lettres.
Merveilleux.
Écoutez, c'est...
Il y a une dimension merveilleuse. Je dis souvent le mot merveilleux, c'est vrai, parce que ce sont des êtres comme des magiciens. Ce sont des magiciens du langage. Et lui, chaque livre, une contrainte différente. Alors, il en écrit un, il n'y a pas le... Après, il en écrit un autre, il décrit des choses. Après, il se met à un carrefour, un homme qui dort, il se met à un carrefour. Il veut voir les voitures passer. Il attend le moment où il ne se passe jamais rien. Rien que ça, toutes ces contraintes, Oulipo, là, c'est magnifique le mouvement Oulipo. Chaque livre a une contrainte différente. Il a mené à terme, il a beaucoup écrit, il aimait les mots croisés, il aimait les pulses. Et là, s'il aimait la cigarette, ce qui lui a coûté la vie, ce lui a rongé les poumons, c'est une grande perte considérable pour la littérature française. Oui, mort trop jeune, il nous a privé de beaucoup de chefs-d'œuvre.
Voilà, j'ai appris grâce à vous qu'il avait comme projet de confectionner un herbier de Paris.
Un herbier de Paris, c'est pas beau ça, c'est fabuleux d'ailleurs.
Franchement, écoutez...
Un herbier, c'est-à-dire on voit ce qu'il voulait dire, quoi, ramasser les tickets de métro, des gobelets, je pense, n'importe quoi. Tout ce qu'il pouvait ramener, le nouveau Léon-Paul Fargue.
Bernard Morlino, est-ce que ce livre vous a changé, vous a métamorphosé? Il y a un après ce livre, parce que vous me dites que chaque livre pour vous est un combat, hein, finalement.
Oui.
En quoi ça vous a... Ça vous permet de faire la synthèse aussi de votre vie d'écriture, de comment...
Oui, c'est vrai, ça clôt. Bon, comme je dis, ça fait 40 ans que je suis chroniqueur littéraire, ça clôt quelque chose. ça ouvre vraiment une autre perspective sans doute. C'est pour ça que je t'appelle un nouveau tome où là je vais faire mes écrivains, les grands oubliés que j'ai pas mis là, mais ceux qu'on dit du second rayon qui sont du premier.
J'espère
et c'était pas pareil, je veux dire, c'est pas la même optique. Et là, ça m'a permis vraiment de revisiter entièrement le XXe siècle. J'ai vécu comme ça 3 ans magnifiques, parce que vraiment, j'ai l'impression de les connaître. Quand on fréquente comme ça la littérature, ça reste, c'est palpable. C'est pas des rêves comme ça, idiots, stupides. Non, ces personnages, ces personnalités sont dans les livres. Parce que, bien sûr, nous, l'homme mortel, il y a des gens merveilleux qui traversent la vie, ils sont formidables, mais ils laissent pas de traces. Eux, ils ont mis dans les livres, c'est du miel, je veux dire, c'est du condensé, ils sont là-dedans, et il faut vraiment, la moindre des choses, c'est qu'on se rentre dedans. Les faux livres ne sont pas dedans, les auteurs, donc, comme on dit, c'est superficiel. Mais là, c'est vraiment, c'est fort, c'est solide, c'est costaud, c'est architecturé, c'est magnifique, et ça m'a permis vraiment de me baigner là-dedans, c'est du bonheur.
Bon.
Ah oui.
À quoi ressemble votre bibliothèque? Est-ce que vous avez une ou plusieurs bibliothèques? Est-ce qu'elle est rangée de façon thématique?
Ça, c'est une bonne question, vous allez dire. C'est un de mes sujets aussi, que ça fait des années que je travaille là-dessus. C'est mon rêve d'écrire une ligne de littérature à travers une bibliothèque. Bien sûr, il y a plein de façons de les ranger. Georges Perec en a beaucoup parlé. Hein. Moi, ils sont en ordre alphabétique. Mais c'est un grand casse-tête parce que les formats, ce n'est pas les mêmes formats. Et parce que j'ai fait ordre alphabétique parce qu'on les trouve directement. C'est pour aller direct. Je sais, ils sont directs. Imaginez si c'est rangé n'importe comment, c'est pas possible.
Ah bah moi, malheureusement,
là, il faut y aller direct. Donc, ils sont rangés par ordre alphabétique et je suis vraiment très attaché aux éditions. Bien sûr qu'on dit les gros tirages, les tirages numérotés. Maintenant, c'est très cher, mais c'est tellement beau parce que quand vous avez
êtes bibliophile aussi.
Oui, quand vous avez un tirage limité, c'est comme un tableau de maître, comme ça, c'est merveilleux. Et puis, je suis très attaché aussi aux dédicaces. J'ai un sommet chez moi que je n'ai pas payé cher, d'ailleurs, parce que ça fait 40 ans que je les cherche. Avant Internet, j'écumais les les bouquinistes.
Les bouquinistes, qu'ils ont besoin
Je les ai tellement pratiqués. Donc, j'ai un livre, un trésor, j'ai un livre d'Emmanuel Beau dédicacé à Henri Calais. Là, c'est fabuleux parce que le livre d'Emmanuel Beau, en plus, il a tenu dans ses mains et Calais l'a lu ou pas lu, mais c'est sûr qu'il l'a lu parce que tout est rogné. Donc là, je veux dire, il y a une présence, une force. Quand j'ai un livre comme ça, c'est un sommet, quoi.
Et vos projets actuellement, vous écrivez sur...
Alors mon but, ça serait de faire le Panthéon, j'ai déjà le titre, le Panthéon des oubliés,
ouais.
Avec tous les grands écrivains dont on dit qu'ils sont mineurs, soi-disant, ou pas importants, mais qui sont prodigieux, toujours pour cette façon d'utiliser le langage unique qu'ils ont chacun d'eux.
Votre première lecture et dernière lecture en date, la toute première souvenir de lecture, et puis si vous en
quand
avez...
j'étais enfant, tout ouais, ça, ouais. Bon, c'était les Tintins, c'est à travers ces Tintins sûrs. Au début, j'aimais pas la littérature, ça me faisait peur, j'ai mis très longtemps à lire un livre sans images. Mais les premiers, c'est Tintin, ça m'a ouvert l'esprit, parce que j'ai vite compris qu'en fait, il rendait jamais la copie, c'est ça que j'ai dit, mais c'est bizarre, il est reporter, mais on voit jamais son travail, il fait que voyager, c'est incroyable. Bon, ça, c'est ce qui m'a frappé le plus. Et après,
le dernier, là, que vous avez lu, est-ce qu'il y a un livre?
Le dernier que j'ai lu, c'est de Philippe, notre ami Lacoche,
Oh
les filles, c'est celui-là que je viens de lire. Oui. Très bon livre, très surprenant, parce que lui aussi, il sait utiliser le langage. Parfois, il nous envoie comme ça des scuds en plein visage, mais après, 2 pages après, c'est le contraire, tout est à mes douées. Il s'est très bien rythmé, et c'est un très beau livre.
Bah, merci à vous, Bernard Morlino. Merci pour les 100 qui restent, 100 écrivains français du XXe siècle qu'on lira encore en 2100. Ça vient de paraître aux éditions Écriture. C'est un très beau livre, qui est assez imposant. Je pense que c'est un bon cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui veulent, les jeunes, les moins jeunes, qu'importe. Si vous voulez avoir, c'est comme un petit livre de chevet. C'est quelque chose d'important. Ce sont vos rencontres qui sont importantes. Merci à vous. Et je dis aux auditeurs qu'ils peuvent réécouter l'émission Bibliomanie d'aujourd'hui sur Radio Libertaire. Il y aura donc un podcast. Donc vous pouvez le télécharger, réécouter l'émission. Puis nous allons sans doute écouter une dernière choix musical.
Et bien sûr, puisque vous avez parlé de « Oh les filles », eh bien, il y a une oubliée qu'on a un peu exhumée par volontarisme qui, à mon avis, va rester. Là, c'est pas une autrice, c'est une compositrice qui s'appelle Germaine Taillefer. Et c'est un enregistrement de 2022 par l'orchestre Padlou des compositrices. C'est un prélude à une petite suite pour orchestre composée en 1957. Et puisqu'il n'y a pas d'émission après, pour faire plaisir à l'invité qui aime bien Ricky Lee Jones, on passera le titre pirate du CD éponyme qui a été composé, enfin qui est paru en 1981. Alors d'abord, Germaine Taillefer.